bienvenue avec Léna Kadoboudadi.
Bonjour à tous.
Tom Villard.
Bonjour.
Thomas Wiesel.
Bonjour.
Daniel Morin.
Ah, bravo, toi.
Tout à l'heure, Tanguy Pasturo sera là. Et nos invités sont Charles Pépin et Jules.
Bravo.
Merci de venir malgré le décalage horaire, les voyages, la vie privée, le teint allé de Jules qui revient visiblement de vacances.
Un peu comme Ulysse, j'ai garé l'Odyssée sur le parking de Radio France.
Bien. C'est ça. Heureux qui, comme Jules, a fait un long voyage, Charles Pépin et Jules commettent à nouveau une œuvre ensemble qui est à pleurer ou à pisser de rire, ça dépend de l'endroit où vous vous
c'est
lâchez.
C'est humide en tout cas, a priori.
Pardon ?
C'est humide d'après tout en tout cas.
De toute manière, ouais. Ouais, c'est humide, exactement. Je me sentais humide en lisant, de transpiration aussi par moment en lisant les 50 nuances de grec.
Une mission dégueulasse.
C'est une encyclopédie. Non, parce que ce qui est malin, ce qui est fort, c'est que on apprend des tonnes de choses et que ce soit dans le côté bande dessinée ou même dans les textes où vous lâchez
même
aussi.
Dans les textes.
Ouais, vous lâchez. Si si. Au début, je me suis dit bon, ça va être très très basique avec l'histoire d'un côté, la vanne de l'autre. Et ben non, il y a des moments où
il m'arrive de faire des vannes.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et des bonnes parce qu'on s'y attend pas. C'est encore plus malicieux. Non, c'est drôle et c'est complémentaire, évidemment. C'est pas la première fois que vous travaillez ensemble tous les deux, c'est la combienième ?
Non, parce qu'avant 50 nuances de grec, on s'est attaqué à la philosophie.
C'est
et
ça.
Donc on a fait une encyclopédie mondiale de philosophie. On disait en 5000 ans, on va résumer toute la pensée mondiale. Donc on a fait deux tomes de La planète des sages. Puis on avait fait une méthode appliquée de tout ça qui a été Platon-Lagaffe.
Platon-Lagaffe.
C'était la philosophie au bureau, quoi.
Toujours publié dans la même collection chez Darko.
Absolument.
Reste, et chez,
voilà. Donc, et là, le sous-titre, c'est 50 nuances de grec, le sous-titre, c'est Encyclopédie. Des mythes et des mythologies, mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire, voilà, on prend les dieux de l'Olympe, les grands héros de la mythologie classique qu'on connaît tous, hein, qu'on a tous depuis l'enfance, lu et avec lesquels on voit le monde.
On les a peut-être lus ou apprises ces histoires, mais on n'a pas forcément retenu. Sur Ulysse, par exemple, puisqu'on parlait de heureux qui comme Ulysse revient d'un long voyage, vous faites la vanne de dire que sa femme est restée donc à la maison. Elle a fait un travail, on n'a aucune preuve du travail.
Ah, voilà, alors le problème c'est qu'elle s'appelle Pénélope. Alors ça, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, quelqu'un qui a bossé pendant 40 ans et qui était incapable de montrer au juge ce qu'elle a fait.
Sauf que vous ne l'avez pas mis dans le dessin qu'elle s'appelait Pénélope.
Non, mais alors elle habite à Sablé-sur-Sparte.
Voilà, c'est ça.
Oui,
mais, ouais. Non, mais je m'attendais à ce qu'il y ait une Pénélope quand même, puisque là Pénélope c'est la mythologie, c'est pas forcément de la
Mais il y a aussi, mais on la voit, on la retrouve dans l'album, puisque Pénélope en fait n'a pas du tout envie de travailler, elle a délocalisé le tissage de sa tapisserie en Chine, et donc Ithaque devient l'endroit à la mode pour ressortir en boîte.
C'est tellement drôle. On revoit et on réapprend aussi, Charles Pépin, l'histoire. Parce que les Amazones, on peut avoir comme ça des réflexes rapides en se disant, bon, ok, elles sont combattantes. Oui.
Puis elles sont intelligentes, elles utilisent les hommes comme des jouets sexuels. Elles ressemblent un peu aux fémènes, en fait.
C'est la vanne que vous faites, sauf qu'elles ont un sein et pas deux.
Ouais. Et puis surtout, à chaque fois, on essaye de dégager ce qui pourrait être une sagesse à la fois pour notre temps et puis une sagesse universelle. Par exemple, sur le cas d'Ulysse, c'est cet homme qui se connaît, au fond, il sait qu'il ne va pas pouvoir résister, il sait qu'il est curieux, aventureux, mais en même temps il est responsable. Donc quand il demande à ses compagnons de voyage de se faire attacher au mât pour résister aux sirènes, c'est une leçon de vie pour chacun d'entre nous. Si on pouvait y arriver à anticiper comme ça sur la curiosité pour devenir responsable.
Ah bon, j'aurais voulu être attaché à un mât.
Ouais, aussi. Mais finalement, il y a des leçons de sagesse quand même. Voilà.
Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est la relecture quelque part que vous faites des mythes et de ces personnages appartenant à la mythologie. Parce que souvent, si on prend l'exemple de Zeus, Jupiter, il est relégué au rôle du mal qui a tous des envies irrépressibles et qui ne peut pas s'empêcher de séduire. Ouais. Or, c'est bien d'expliquer que ces histoires qui font sourire les enfants et les plus jeunes, on peut les lire à un degré supérieur
bien
et
sûr.
Dire que finalement, la séduction de Zeus, c'était de la stratégie, c'était la guerre du territoire. C'est comment assurer une forme d'harmonie ou de concorde le concernant pour l'avenir en enfantant des enfants qui allait prendre sa défense ou en tout cas préserver les hommes des grands maux qui les menaçaient. Et je trouve que ça, c'est rarement expliqué.
Bien sûr, et puis c'est vrai que
c'est vraiment très
comme
fin.
Vous le dites bien, les amours de Zeus, déjà, sont un peu limites du point de vue des mœurs, mais elles ne sont pas simplement érotiques, elles sont politiques, stratégiques.
Absolument.
Et puis, c'est le personnage tout puissant, et en même temps pas tant que ça, parce que dans chacune de ses maîtresses, il va rencontrer une vertu qui lui manque. Donc on voit à la fois que dans tout séducteur, il y a quelqu'un qui manipule, et qui est puissant, mais aussi quelqu'un qui est fragile et qui a besoin de l'autre.
Donc Nagui, c'est politique. Systématiquement... C'est extraordinaire. Pardon, Tom. C'est politique, je savais
mais
pas
oui,
en
c'est
fait.
Politique.
Non,
c'est politique.
Non, non, pour lui, pardon, pas
ah
pour.
Ah
pas
d'accord.
Pardon.
Ah ouais.
Pardon, pardon.
C'est une attaque personnelle.
C'est Nagui, c'est pas Dionysos.
Mais non, mais on le retrouve après dans l'histoire d'Aîné. Aîné qui.
Ah, d'Aîné.
La guerre de Troie, qui est obligé de fuir Troie parce qu'il y a le sac des Grecs. Et il a déjà une compagne sur place qui finit par abandonner, partant avec son vieux père et son fils Ascagne. Il va croiser la route de Didon. Enfin, ça va mal se finir pour elle, mais c'est encore une deuxième femme, deuxième territoire. Donc, c'est encore de la conquête. Et ensuite, il ira dans le Latium où il va fonder l'Avinium. Et là, encore une fois, c'est une façon de dire l'homme, par ses amours, n'est pas simplement qu'un séducteur. Il est aussi une façon de prendre possession d'un territoire.
Alors, ça, c'est la façon à chaque fois que Charles Pépin a de dialoguer avec la page de bande dessinée. Parce que pour décrire l'album, en fait, il y a une page de bande dessinée ou deux, et en regard, un petit essai philosophique justement qui prend de la hauteur comme vous venez de le faire.
Parce que ça se passe dans ce sens-là. Il y a d'abord la bande dessinée.
D'abord la bande dessinée, et lui d'accord. Ensuite, ça lui sert de matériau premier. Et donc là, pour Zeus, il y a toute une réflexion qu'il peut y avoir, mais moi je le mets en scène chez son avocate, parce que comme il a fait des mômes partout, il doit payer un max de pension alimentaire, et donc ça lui casse la tête. Et c'est cette résonance-là de ces grandes mythologies, de ces choses qui sont vraiment impérissables, des espèces d'éternels humains, avec l'actualité, c'est encore plus frappant, parce que moi, j'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans pour faire cet album. Il sort à ce moment-là où on parle tellement du harcèlement sexuel. Et en fait, tout d'un coup, on comprend, mais oui, en fait, le harcèlement sexuel, c'est pas judéo-chrétien, c'est pas forcément la société de consommation de masse dans laquelle on vit qui nous l'a appris, c'est la mythologie gréco-latine. Et donc, Zeus, Pan, Hermès, Dionysos...
Ils sont un peu limites, ouais.
Voilà, c'est des violeurs en puissance, ils nous ont donné des exemples.
Mais attention, quand tu
ils
quand
sont
tu
très souvent punis
ça,
hein, de
et,
ça.
Et il peut y avoir l'inverse, il y a Héra aussi, il y a les femmes qui se vengent.
Alors oui, Héra, c'est la déesse jalouse.
La seule mariée.
Voilà, et c'est la seule, c'est dans l'album, on voit, elle extermine toutes ses rivales à la Kalachnikov. Et
en disant
merci pour ce moment, évidemment.
C'est honteux.
C'est drôle.
Non, mais c'est drôle, mais il y a quelques têtes de Turc, il y a évidemment donc Traveller, il y a DSK aussi qui reçoit pas mal.
Oui,
qui en fait grandit, moi, je pense.
Oui, parce qu'il y a Dionysos la Saumure, qui est le proxénète du Sofitel Mykonos et du Carlton de Delphes, qui organise des parties fines, comme ça, dans lesquelles Pan, qui ressemble singulièrement, je dirais, à DSK, qui serait une version, justement, un petit peu, vraiment, de cette animalité, de cette bestialité qui peut nous animer, et mis en scène aussi. Ouais.
Et moi, j'ai besoin juste d'un supplément, parce que je me dis, comme cet album va traverser les siècles et qu'on pense forcément à la postérité, une petite annexe avec les explications pour ceux qui vont nous lire dans 100 ans, qui ne se souviendront plus de Dodo la Saumure ou de Valérie Trierweiler, ça aurait été drôle de faire un petit explicatif.
Ça sera en 10 ans, c'est pas dans 100 ans. Hein,
moi j'espère que cet album va traverser le temps.
Je parle de ne plus se souvenir de Dodo la Saumure,
je pense que
dans 10 ans c'est fini.
Oui, dans 10 ans c'est déjà foutu.
Ouais, en même temps, il y a des choses qui sont ensuite rentrées dans les mythologies, des choses qu'on a oubliées, mais qui restent des expressions. C'est le cas de la mythologie grecque, et puis c'est le cas de plein de choses de pop culture aujourd'hui. Mm. Des choses qui nous environnent, on sait même plus pourquoi on dit ça, mais finalement...
C'est vrai qu'il y a des vannes faites sur The Voice aussi.
Alors, The Voice Olympe, évidemment, il y a tous les talents de l'antiquité gréco-latine.
C'était pas pour que vous le racontiez forcément,
si,
Jules.
C'est drôle.
Il démarre au quart de tour.
J'adore,
c'est incroyable.
J'adore.
Pour expliquer.
Mais je vous en prie. Alors,
non, mais du coup, c'est Orphée qui est jury. Oui. Et puis Orphée ne se retourne jamais, parce que la dernière fois qu'il s'est retourné, c'était sur Eurydice qui s'est retrouvé balancé aux enfers. Donc, personne n'est jamais nominé.
Par cœur. Ouais. Tout à l'heure, on parlera de la mythologie avec Muriel Zach, que vous avez croisé en disant, mais je vous adore, vous êtes fan de ce que fait Muriel.
Bien sûr, parce que ces séries de livres, nous, ça nous a servi de terreau, ça nous a nourri. C'est ce que lisent nos enfants.
Ouais,
et en fin de compte, on se rend compte que les enfants sont les plus grands spécialistes de mythologie. Et moi, à chaque fois que j'avais une petite question de généalogie ou quoi, j'allais poser des questions à mes filles, aux enfants de Charles Pépin, et ils savaient vraiment répondre à tout.
Non, mais la vérité, il faut quand même le dire.
Il y a 10 minutes, vous voulez rajouter quelque chose, Charles.
Ouais, quand j'ai commencé à bosser, il y a Jules qui m'a dit il faut que tu lises Muriel Sfac. Donc voilà, merci. Et puis, sur Orphée, c'est un exemple de la sagesse qu'on essaye de dégager au-delà de toutes les blagues. Au fond, Orphée, au dernier moment, il se retourne et il va tout perdre. Alors qu'il est allé chercher son épouse aux enfers, il a réussi à charmer les dieux des enfers par sa voix incroyable et son sens de la mélodie. Et puis, Hadès lui dit, ok, tu vas pouvoir repartir avec elle. Il y a juste une condition, c'est que tu te retournes jamais avant d'arriver à la lumière. Et alors, le con, il se retourne au dernier moment. Ouais. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que nous, les animaux humains, on est capable de on a peur du bonheur, au fond. Et au moment où le bonheur est possible, il faut qu'on détruise tout. Et la question qui est posée, c'est pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous excitent plus que le bonheur, finalement? Et est-ce que le bonheur n'est pas quelque chose qui nous fait plus peur qu'autre chose?
Joli, joli. Mais vous l'avez compris, en tout cas, ce livre est à la fois drôle, intelligent, instructif et puis riche d'enseignements et de vannes sur l'actualité. Ça prend des proportions extrêmement malicieuses, j'ai envie de dire, parce que vous tombez pas dans la facilité et on est même... c'est bluffant, c'est réussi, voilà, bravo. C'est chez Dargo, ça s'appelle 50 nuances de grec. Tom Villa, vous avez bien compris pourquoi Jules, Richard Pépin étaient nos invités.
Ben, vous venez de le dire, pour 50 nuances de grec, qui ouais. ne traite pas, comme son nom pourrait laisser penser, d'une histoire d'amour un peu SM entre une jeune stagiaire et Nikos Aliagas. Non, Jules et Charles Pépin, vous reprenez voilà, toutes les grandes figures de la mythologie grecque pour projeter avec humour donc, les problèmes contemporains. Et c'est très bien. Par exemple, on parle d'Achille. C'est vrai qu'Achille, c'est quand même débile. Tu vois, aujourd'hui, il se baladerait plus en crocs. Tu vois, il ferait un tour chez Zalando. Hop, une petite paire de Doc Martens. Tu ne ferais pas chier avec tes talons. Non, mais c'est vrai. Et vous avez bien fait de faire ce livre maintenant parce que, franchement, dans 4000 ans, je ne sais pas ce que les auteurs de BD pourront raconter sur les grandes figures de notre temps à nous. Tu vois, la Grèce antique, franchement, ça avait une autre gueule. Tous ces mythes, ces dieux, et même après avec les philosophes. Dans 4000 ans, moi, je vous le dis, on va se taper la honte. On aura quoi, je sais pas, 50 nuances de réac. Tu vois, Marc, t'as pas besoin d'attendre 4000 ans. Tu vois, ouais. 2-3 dessins à valeurs actuelles et on a une idée assez précise de ce que ça peut donner. Mais non, mais vous imaginez une BD sur Finkielkraut? Un chapitre sur deux, ça sera sur l'invasion des musulmans et le reste sur la décadence française avec la fin de la langue française due à l'invasion des musulmans. Non, ça va être compliqué. Déjà que le monde du livre et de la BD se porte pas super, alors là c'est la faillite assurée. Et puis nos dieux à nous, c'est qui aujourd'hui? C'est quoi? Les sportifs, on en parlait là. Messi, il y a le ballon d'or ce soir, c'est
Ronaldo,
BD
Messi,
sur les footballeurs. 50 ouais. nuances de Becherel, c'est ça qu'on ferait? Hein? Et que c'est lui qui m'a insulté ma mère d'abord et que je croyais qu'elle était majeure? Non, voilà, ça serait horrible.
Ils sont pas tous Ribéry non plus, ça
va. Ouais, mais bon, hein, no blague espagnole. Non, mais la honte, les Grecs, ils avaient inventé des sports, le marathon. Le marathon, c'est grec, inventé par Philippides. Voilà. La okay. classe. Bon, sauf le nom, Philippides.
Enfin, il a pas inventé, c'est un soldat qui est allé annoncer la
oui,
victoire.
Bien sûr. Oui. Enfin, c'est quand même un petit et nom de semelle orthopédique.
Il a inventé sans le vouloir.
Voilà, il est mort en arrivant et après, c'est Coubertin qui l'a récupéré.
42 km, 195 distance séparant la ville de Marathon de l'entorse. parce que le mec, il avait pas de Nike, hein. C'était pieds nus. C'était de la caillasse, hein. C'était pas beaucoup goudronné à la Grèce à cette époque-là. Remarque maintenant non plus, tu me diras. Alors, non, mais c'est vrai, déjà, quand t'as inventé des sports, c'est que t'es un peuple un peu développé, tu vois, dans 4000 les gens ils regarderont notre époque et ils verront qu'on a inventé quoi, le lancer de hache. C'est, je vous jure que c'est le nouveau sport à la mode, avec des salles, des clubs, le lancer de hache. 4000 ans d'évolution pour...
Le lancer de hashtag, pour... non, c'est...
non, non, mais des haches, non. Il y a le molki aussi. Le molki, vous savez, c'est le bowling du pauvre. Tu sais, tu fais tomber des bâtons avec un autre bâton. On dirait un jeu inventé par un mono dans un centre aéré de pauvres. Tenez aussi, les enfants, allez jouer avec des rondins de bois.
C'est suédois.
C'est pourri.
Non, c'est pourri, ça dépend où tu l'achètes.
Parce c'est très beau.
Très rapidement, le bois se casse.
Ça se fait. Non, mais voilà, vous tapez trop fort. Non, mais si vous nous écoutez, vous faites une école d'ingénieur pour inventer la technologie du futur, arrêtez de perdre votre temps. Je parle pas de nos hommes politiques, par exemple. Les Grecs, ils avaient inventé quand même la démocratie. Voilà. La démocratie, c'est pas de la merde. Tu vois, c'est Clisthène qui a inventé la démocratie. D'ailleurs, si on réfléchit bien, c'est un gars qui a imposé la démocratie. Donc, la démocratie est née d'une dictature. Voilà. Dans 4000 ans, tout le monde pourra constater avec beaucoup d'admiration ce que la politique est devenue dans les années 2000. Alors, bien sûr, on a quand même inventé des trucs. Je suis pas persuadé que le non-respect des promesses et les clips de campagne restent beaucoup dans le temps. Et franchement, faire une BD sur les hommes politiques du XXe siècle en l'an 4017, je sais pas, il y aurait quoi, 50 nuances de fraude avec Balkany en couverture. La honte, quand je vous lis. Franchement, vous voyez, vous arrivez à temps avec votre BD, ça a de la gueule, c'est drôle et intelligent. Et profitons-en, et pourvu que ça dure. Bonne émission.
Merci, Tom Villa.
La bande originale, Maggie. France.
Vous l'avez compris, tout part donc de la mythologie vue par le prisme, l'humour et la plume de Jules en dessin animé. Et puis ensuite, un petit essai philosophique. Je ne sais pas si vous acceptez ce qualificatif.
Ça me va, oui.
Ça vous va, très bien. Signé Charles Pépin, généralement sur la page de droite ou quelques pages plus loin quand la bande dessinée, elle, a occupé plusieurs planches. C'est extrêmement bien fait, c'est 50 nuances de grec et c'est chez Dargo. Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous a dit que Jules et Charles Pépin venaient ce matin.
Oui, et quand je pense à vous, Jules et Charles Pépin, j'entends ça.
J'aime bien la parabole sur Machiavel. Machiavel, c'est l'image même du mec dont on croit qu'il a du pouvoir, mais en fait il n'en a pas, parce que là il essaye d'avoir un rendez-vous avec Dieu, mais en fait il n'obtient jamais ce rendez-vous. Mais tout le monde pense que Machiavel a un certain pouvoir, et notamment l'oreille de Dieu. En fait, moins on a de pouvoir, plus on montre qu'on en a. Méditerai là-dessus. Ouais, je sais, il y en a qui vont encore m'énerver en disant « Ouais, méditer, penser et tout, tu lis jamais que des BD, tu ferais pas bien de lire de la littérature, mais putain !»
C'est l'extrait d'une vidéo de Captain BD, un mec assez rock'n'roll, assez drôle aussi, qui chronique l'actu BD sur le web. Là, en l'occurrence, il parlait de votre ouvrage, Platon Lagaffe, et il résume bien, je trouve, la nouvelle place que la BD a su saisir aujourd'hui. C'est plutôt une belle victoire. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ?
Mais oui, parce que au fond, on sait bien que le public de la BD s'est complètement ouvert. C'est plus les nerds aficionados comme ça, qui de éternels ados de 50 ans qui font la queue pour des dédicaces. Il y a autant de femmes que d'hommes qui disent nos bandes dessinées. Mm-hmm. Il y a un petit peu toutes les générations. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est de s'adresser à tout le monde. C'est-à-dire que il y a à la fois des ados, des enfants et des adultes qui lisent les mêmes choses et qui peuvent partager cette chose-là parce qu'il y a plusieurs niveaux de référence. Cette ouverture-là de la BD, elle est folle. Il y a des bandes dessinées scientifiques extrêmement pointues, ouais. Des bandes dessinées sur la physique quantique qui ont eu des grands succès, de l'autofiction,
du roman graphique,
du reportage de guerre. Et tout ça, ça a pris place dans ce grand champ. Et finalement, c'est un peu le dernier endroit d'ailleurs de l'édition où on invente autant et où ça marche encore pas si mal finalement.
Et ça vend très bien. Ouais.
Moi, j'adore philosophiquement ce qui est immédiat. C'est bizarre, en général, le philosophe, il aime les argumentations progressives. Moi, j'aime bien les images. D'ailleurs, j'écris aussi des romans. J'aime bien quand ça va vite. J'aime bien les raccourcis électriques. Et les dessins permettent ça. Donc, si on prend l'exemple d'un dessin que fait Jules sur Narcisse est tellement fasciné par son image qu'il devient prisonnier comme fond d'écran de son iPhone à force de faire trop de selfies. Et en fait, c'est une image, mais ça dit énormément.
Et oui.
Ça dit, par exemple, philosophiquement, la différence entre l'amour de soi, qui est à défendre, et la fascination pour son image, qui est un problème. Et donc parfois, il y a des vérités philosophiques qui jaillissent dans une seule bulle. Et moi, j'aime ça.
Et comment vous êtes tombé dans la BD, vous, Charles Pépin ?
Je suis pas tombé dedans, c'est pas trop mon truc. C'est juste que Jules m'a proposé, on s'est rencontrés à Philosophy Magazine.
Vous lisez de la BD,
oui,
non ?
Oui, un petit peu, mais c'est pas ma culture de base. Ouais. Justement, c'est plutôt une rencontre électrique entre deux univers, quoi.
Et l'idée, philosophiquement d'ailleurs, c'est de faire passer le message que certains réflexes sont ancrés dans la civilisation, dans nos histoires, c'est plus fort que nous, et comme vous dites, la quête du bonheur ou le rapport homme-femme, c'est génétiquement présent, ou au contraire de dire, faut quand même, heureusement, évoluer, progresser, en fait, et tirer des enseignements pour éviter de reproduire ces schémas.
Super question, parce que c'est les deux. Plus on comprend d'où on vient, plus on arrive à changer. Donc plus on sait qu'on a dans notre culture deux grandes origines, une judéo-chrétienne, une grecque, une tragique grecque au fond, que les mythes révèlent, plus on va se connaître et donc réussir à changer. Mais si on est dans le déni et si on refuse de voir, par exemple, ce que nous disent tous ces visages de dieux grecs, à savoir que la séduction, c'est la violence, si on est dans le déni, si on est trop judéo-chrétien à croire que c'est gentil, qu'on est désintéressé et qu'on se fait des petits bisous sans enjeu, alors on va pas réussir à se soigner de sa sauvagerie. Et en fait, ce que nous dit la mythologie, c'est qu'il y a de la violence en nous, il y a du tragique, il y a de l'injustice, que le réel est pas spécialement juste. Et si on veut grandir, si on veut se spiritualiser, se civiliser, il faut le savoir. Il faut savoir d'où on vient.
Et à l'inverse, c'est aussi un recours, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société ultra normée, de contrôle social, de contrôle de la façon dont on vit, ce qu'on mange, la façon dont on doit interagir entre nous. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, est une espèce de poids qui pèse sur n'importe quel individu contemporain du début du XXIe siècle. C'est très corseté. Et cet exemple grec, ce grand récit grec, ça donne aussi un souffle de liberté à l'inverse. C'est-à-dire que on peut, en mettant en scène ces mythes, en retrouvant ce qu'il y a de ces mythes en nous, reconquérir une part de liberté et donc respirer un petit peu mieux. Moi, c'est souvent, en fait, pourquoi je vais du côté de la bande dessinée d'humour ? Pourquoi est-ce que je traite l'actualité en prenant des prismes un peu différents à chaque fois ?
C'est un peu pour vous protéger et dire ce que vous pensez aussi.
C'est pour dire ce que je pense d'une certaine façon, mais c'est aussi pour respirer davantage. Moi, je suis un grand anxieux, un grand inquiet, et quand j'allume la télévision ou quand je regarde le monde qui m'entoure, j'ai envie de rester juste au lit, prostré. C'est quelque chose de tout à fait suffocant, et je pense que la plupart des gens le ressentent. C'est très difficile de vivre dans une espèce d'époque avec un tel degré de violence diffuse ou immédiate.
Donc,
ça donne une liberté.
L'humour est le salut aussi ?
L'humour est complète. Enfin, en tout cas, oui, l'humour est un remède et l'humour est une fenêtre ouverte sur la liberté. C'est un petit peu d'air quand on est un petit peu oppressé, quand l'oxygène est raréfié.
L'humour permet aussi de comprendre. Parce qu'il y a des moments, pourquoi on ne comprend pas ? Parce qu'on est crispé, parce qu'on est tendu. Et l'humour crée une détente intérieure qui est l'occasion d'une compréhension intellectuelle. On peut prendre un exemple sur Dédale pour voir aussi combien les mythes nous parlent d'aujourd'hui. Dédale, en gros.
Avec le Wi-Fi. Voilà. Je m'attendais à la vanne du Wi-Fi d'Ariane, mais elle n'est pas venue. connue celle-là.
Si, si, c'est justement, voilà.
Non,
c'est...
non, le Wi-Fi d'Ariane.
Ah oui, le Wi-Fi. Non, je suis pas allé jusque-là, mais c'est sous-tendu, c'est sous-tendu.
T'aurais pu.
J'aurais pu, ouais.
Et on peut revenir sur Dédale. Dédale, c'est toujours le mec qui sait tout faire techniquement et on croit qu'il va régler tous les problèmes qu'il a causés avec sa technique. Par exemple, il a construit le Minotaure pour satisfaire au fantasme d'une femme. Du coup, après, il faut enfermer le Minotaure. Et ensuite, il est enfermé dans le labyrinthe lui-même qu'il a construit. Mais alors, pour en sortir, il invente les ailes avec Icare. Et en fait, ça nous dit que la technique nous perd, parce qu'on croit toujours qu'on va régler par la technique le problème posé par la technique. Ouais. Et donc, ce mythe de Dédale...
Donc, la solution crée toujours un nouveau problème.
Exactement. Et surtout, il y a l'illusion qu'on va pouvoir sortir du problème en trouvant une solution par la technique elle-même, qui est le problème d'origine. Et au fond, ce que ça nous raconte, c'est notre époque. C'est exactement notre époque. Vous savez, aujourd'hui, on a l'impression qu'on détruit la planète, mais qu'on va pouvoir aller vivre sur Mars. C'est exactement le même principe. On croit que
Descente aux enfers, c'est totalement le procédé même des auteurs pour écrire des vannes ou dans des fictions. C'est-à-dire, il y a un problème, on va trouver une solution qui va créer un problème encore plus gros et ainsi de suite.
Voilà, ça décrit une propension humaine.
Et la créativité, ce que vous racontez, c'est aussi le principe de la créativité. C'est que plus j'ai de contraintes, plus je dois être créatif pour dépasser les contraintes que ma créativité a posées.
Et pour comprendre qui est Dédale, en gros, ce personnage qui est plus ou moins historique, en tout cas, c'est une mythologie qui est axée sur des choses qui ont été vraiment inventées. Dédale, c'est un mélange de Léonard de Vinci et de Gaston Lagaffe. En gros, c'est le type qui a tout inventé, qui est un génie absolu et en même temps qui n'arrête pas de se planter et à créer des catastrophes en chaîne.
Et d'ailleurs, Dédale, lui, contrairement à la plupart des autres, a réellement existé. C'était vraiment un ingénieur.
On parlera justement de ce côté totalement inventé avec la naissance de la mythologie tout à l'heure avec Muriel Zach qui publie le feuilleton, enfin des différents feuilletons, le feuilleton d'Ulysse, le feuilleton d'Hermès, toute cette collection qui est publiée chez Bayard Jeunesse. Mais d'abord, voici l'humeur de Thomas Wiesel. C'est pas une invention.
Merci beaucoup. Et cette semaine, j'étais en Angleterre. Vous savez, ce pays avec qui vous avez fait la guerre pendant des siècles.
On voit ton t-shirt.
Oui, mais c'était prévu. C'est un pays avec qui vous avez fait la guerre. C'est un pays à qui vous avez donné la plupart de leurs souverains. Thierry Henry aussi, Eric Cantona. Et qui, en retour, vous a refilé Jane Birkin, Mika et Charlie Winston. Je crois que vous avez perdu la guerre, si jamais. Mais ces derniers temps, c'est les Britanniques qui galèrent. Les négociations du Brexit pataugent. La facture de la rupture augmente. Les tensions internes menacent de faire exploser l'accord. Mais ça, personne n'en parle en Angleterre. Car depuis deux semaines, il n'y en a que pour le mariage de Meghan Markle et du Prince Harry. Et c'est très très pratique pour la première ministre Theresa May qui peut tranquillement terminer de foirer les négociations. Pendant que tous ses compatriotes choisissent le traiteur, font des plans de table, débattent de la couleur des dragées, ils vont être super déçus d'apprendre qu'ils ne sont pas invités. Et en plus, le mariage va coûter au moins 20 millions aux contribuables en frais de sécurité. Donc moi, si je payais 20 millions, non seulement je vais avoir mon mot à dire sur les fleurs, mais je veux qu'on m'envoie la sextape de la nuit de noces. La moindre des choses, c'est beau l'amour. Et cette histoire, elle est belle. Déjà, c'est un espoir pour tous les roux, Nagui. Vous aussi, vous pouvez épouser une actrice américaine canon, il suffit que votre mamie soit la reine d'Angleterre. Voilà,
c'est simple.
Non, elle a de la chance, Meghan. Épouser Harry, c'est l'assurance de ne plus jamais avoir à bosser grâce à l'argent du contribuable. Chez vous, en France, l'équivalent, c'est épouser François Fillon. Voilà, le mariage princier prend toute la place dans les médias. Il y a plein d'autres actus en Angleterre qui passent à la trappe, car on peut pas s'intéresser à tout, à moins d'être Léa Kador Boudadi qui arrive à lire 4 livres, voire 8 films, écouter 2 albums avant le petit déjeuner. Mais il y a plein de news ces temps au Royaume-Uni qui ne passent à la trappe. Par exemple, il y a un complot terroriste qui a été déjoué contre Theresa May. Ouf, elle y a échappé, elle pourra être au mariage donc. Il y a aussi des soldats britanniques qui sont accusés de crimes de guerre en Irak. Mais est-ce que le vrai crime, c'est pas d'entacher le bonheur de Harry et Meghan avec ces histoires tristes? C'est ça, la vraie histoire. Et relégué en page 11 du Times de mardi, un de mes titres préférés de l'année, les conseils de diététique des infirmières obèses sont difficiles à avaler. Voilà, un quart des infirmières en Angleterre sont obèses. Du coup, c'est l'engrenage. Les Anglais ne les écoutent pas quand elles disent qu'il faut manger sainement et ils deviennent obèses aussi. Et on peut pas leur en vouloir. Si tu dépasses ton garagiste en panne sur l'autoroute, au prochain pépin avec ta voiture, c'est pas lui que t'appelles. Il est pas crédible. C'est comme si t'as un ministre du budget qui fraude le fisc. Ah non, ça vous avez eu ici, pardon. Non. Mais tout ça, l'Angleterre n'en parle pas.
C'est facile de juger de la Suisse, évidemment.
Oui, on vous a un peu aidé sur ce coup-là. Ouais, voilà. Mais tout ça, l'Angleterre n'en parle absolument pas. Il y en a que pour Harry et Meghan. Et moi, je me demande si Emmanuel Macron n'est pas un peu jaloux de son homologue britannique qui peut, elle, travailler tranquillement dans l'ombre pendant que les médias s'occupent de la rubrique matrimoniale. Macron et les médias, avant et après l'élection, c'est comme un séducteur et une meuf avant et après le coït. Hein. Avant, il était prêt à tout. Maintenant, il répond plus au téléphone. Et là, je pense que Macron, il essaye en douce d'organiser un mariage royal en France pour détourner l'attention et faire ses réformes tranquilles. Bon, vous n'avez pas de famille royale en France, donc il était en train d'essayer de maquer Louane avec M. Pokora, c'est un peu l'équivalent chez vous, mais ça marchait pas trop. Et soudain, il a reçu un coup de main du destin avec Jean d'Ormesson, mardi, et hier, Johnny. Et paf, voilà, on en a pour une semaine de rétrospective, d'hommage, d'interviews croisées de Jean-Jacques Debout, de Hugo Frey, de Dick Rivers, et une émission spéciale présentée par Michel Drucker, tout ému, et on le comprend, il a bientôt enterré plus de monde que le directeur du Père Lachaise. Et il doit commencer à se demander qui va présenter son émission hommage à lui en 2064. Parce qu'il faut vraiment qu'on le mette lui et Charles Aznavour sous papier bulle, parce que sinon, d'ici qu'on est terminé avec les hommages, Macron, il aura supprimé toutes les aides sociales, il aura divisé les impôts pour les riches par deux, il aura vendu l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne pendant qu'on était occupé à chialer en écoutant les chansons de Johnny et en lisant les textes de Jean d'Ormesson. Alors attention, ne faites pas l'inverse, c'est dangereux pour l'organisme. En tout cas, soyons vigilants. C'est pas parce que nos yeux sont pleins de larmes qu'il faut pas les garder ouverts.
Merci toi, Bizet.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Des larmes de rire, ça change un peu de ce que l'on avait hier pour l'information de la mort de Johnny. Bon, sinon, on a bien ri avec Alain Chabat.
Et
voilà, avec son Santa et compagnie qui démarre extrêmement bien et on en est ravis. Retour donc sur 50 nuances de grec avec cette notion temporelle justement sur l'actualité, sur la politique, sur ou même des cartons télé. Vous hésitez à aller sur des pistes trop branchées, actualité, de peur justement qu'on les perde ou qu'on les oublie et qu'on ne sache pas quelle est la référence ?
Bien sûr, quand il y a des références à des actualités un petit peu directes, elles sont très légères, c'est pas vraiment pas le cœur du propos ni du gag. Bon, c'est des petits clins d'œil, effectivement, ça rend le truc, c'est pour dire aussi, on peut chaque instant de notre vie penser à quelque chose qui nous est transmis de ces époques-là, de cette culture gréco-latine. Et il y a quelque chose toujours à tirer. Ça nous rend moins aveugles sur ce qu'on expérimente dans l'immédiat. Ce côté éphémère-là, il est présent. Mais en fin de compte, par exemple, je pense à la page sur Caron. Caron, c'est le passeur, le nocher des enfers. Le passeur qui, dans sa barque, justement, fait traverser les morts. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt dans l'Antiquité grecque, on lui donne dans la bouche une pièce d'une obole qui lui permettra de payer le tarif du passeur. Sinon, il restera à errer éternellement sans aller aux enfers. Et là, ce Caron dans l'album, bah, il se retrouve complètement ruiné parce que lui, c'est du passage vers les enfers tranquille, traditionnel, avec une belle barque à la Dante Alighieri, vraiment tout ce qu'on fait de plus.
Ils le mettent dans la bouche parce qu'ils n'avaient pas de poche.
Oui, voilà, oui, puisqu'ensuite ils ne peuvent plus trop bouger. Mm. Bon, voilà. Et lui, son business est complètement ruiné parce qu'évidemment, les passeurs clandestins, bah, ils entassent 800 Somaliens dans une barque dégonflée qui vont couler au large. Et ça, finalement, de mettre en regard, si tu veux, l'enfer.
Il casse le marché.
Oui, lui, il casse le marché. Mmh. Et voilà, il dit vraiment, c'est passeur, c'est l'enfer. Et du coup, ça met en regard à la fois des événements tragiques qui nous hantent. Et pour dire, on peut pas uniquement être dans le pur divertissement. C'est bien, justement, de s'emparer de sujets issus de cette grande culture qui nous est propre, qui nous nourrit, pour penser des choses qui sont un petit peu plus difficiles et pas seulement juste faire des vannes sur The Voice Olympe ou Achille qui s'achète des talons Louboutins à longueur de journée plutôt que se battre contre les Troyens, vous voyez.
Quand on emploie des mots comme justement légende, on parle de la triste disparition de Johnny Hallyday souvent en disant que c'est une légende vivante qui nous quitte. Quel est votre regard, vous, sur ce côté presque mythique de Johnny, de qualifier d'idole
Moi je trouve que ça a du sens. Et d'ailleurs, c'est presque comme ces grandes figures. C'est une figure du commun, c'est une figure du partage. C'est quelqu'un qui est présent pour nous tous. Donc, quelque chose de mythologique là-dedans. Et puis, il y a aussi.
Mais qu'est-ce qui fait, aussi que chacun qu'est-ce qui fait de légendaire, justement? Qu'est-ce qui fait que.
Johnny.
Oui, il était déjà une légende de son vivant.
C'est qu'il est capable d'accueillir tout ce que les gens y mettent. En tant qu'interprète, il peut interpréter tout ce que nous on ressent.
C'est le rapport avec le public.
Ouais, bien sûr. Et c'est aussi le fait qu'il cherche sa vérité dans le rapport qu'il a avec les gens. Qu'il aime son public, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire, Johnny, moi j'ai cette qualité, je vous la montre. Il va chercher dans les autres sa propre valeur. C'est ça d'ailleurs le charisme, et c'est ça en fait. C'est ça aussi les grandes figures mythologiques. Pourquoi on s'y retrouve tous ou toutes? Parce qu'elles ont quelque chose, un peu comme du vide, pour accueillir notre diversité. Et c'est ça, Johnny. Si c'était un auteur-compositeur, il serait plus scindant, il pourrait exclure. Mais comme c'est un pur interprète, en fait, on peut y mettre dedans tout ce qu'on a envie d'y mettre. Et c'est un peu pareil quand on a une figure comme Achille, Ulysse, c'est des figures qui accueillent tout ce que nous, on projette dessus. Ouais,
alors je suis pas d'accord sur le auteur-compositeur plus scindant, parce que quelqu'un comme Jean-Jacques Goldman ne l'est absolument pas, justement. Il n'y a pas de clivage fait en fonction de ses textes.
Je suis pas sûr. Mais, je pense que
si, Goldman, totalement légende, évidemment.
On verra. Attends, je pense que quand il mourra, non. On ne le souhaite pas
pour l'instant.
Je pense que ce sera pas pareil. Il y aura quelque chose qui va moins concerner tout le monde.
Et on se rappelez-vous ce qui était passé avec Daniel Balavoine aussi, ouais. Mort trop jeune et qui est devenu aussi cultissime, mythique.
Il y a des gens cultes, mais c'est voilà, il y a une nuance entre ces grandes légendes.
Ce qui m'intéressait, c'était de votre prisme, de votre prisme, c'est ça.
Mythique, légendaire, culte, c'est pas la même chose.
C'est drôle parce qu'il est samedi pour les obsèques de Johnny Hallyday. Je pense qu'on on va pas y croire, hein. ça va être monumental.
Ceci dit, il est présent. Vous savez qu'il est présent dans l'album, Johnny. En fait, vous m'y faites penser maintenant, parce que justement, on essaie de mettre un petit peu tout ce qui nous entoure et dans la page sur Orphée et sur The Voice Olympe, qui est présenté par Eros Aliagas d'ailleurs, hein, qui est une espèce de présentateur avec des petites ailes comme ça. Il y a tous les candidats comme ça. Il y a Amadou et Omer qui chantent le dimanche à Mykonos. Il y a Icar qui chante Sa Plane pour moi, évidemment. Il y a Prométhée, le voleur de feu, qui chante Dérober le feu, qui est un direct en enfant de Johnny.
Non, il y a même c'est carrément Allumer le feu. Ouais.
Ah voilà, voilà,
vous,
voilà.
Vous lui faites chanter Allumer le feu dans The Voice. 50 nuances de grec, signé et construit par Jules et Charles Pépin. Drôle, intelligent, riche d'enseignements, vous l'avez compris, on a aimé, c'est publié chez Dargo. On vous a demandé les musiques que vous écoutiez, par exemple Jules, dans les années 89-90, c'était les Beru.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple de mer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, peuple.
Et en 89, Jules, vous voyagez pour la première fois, je crois, en Chine. Vous aviez un professeur de chinois à l'école alsacienne qui ressemblait un peu à Kadhafi, ça vous a un peu marqué?
Oui, il était extraordinaire. Je m'en souviens d'autant que je l'ai énormément dessiné. Ça a été un peu mon gourou, mon maître taoïste quasiment. Il m'a appris le chinois et j'ai voyagé avec lui là-bas. Il m'a donné ce virus-là, ce goût qui m'a jamais quitté, même si ensuite, bah voilà, moi j'étais prof d'histoire chinoise, mais c'est très loin. Et en fin de compte, on se rend compte d'ailleurs, pour revenir à la Grèce, que ce lien entre l'Orient et ces pensées qui ne sont pas justement les pensées chrétiennes, rationalistes, issues du monde latin, mais qui sont plus proches justement d'un certain nombre de philosophes grecs, il y a un voisinage qui fait que le monde très lointain de la Chine ne nous est pas étranger non plus.
Et en tant qu'historien, vous avez été témoin, comme une sorte d'enquêteur, d'une saillie, Ségolène Royal, qui est devenue culte, pour le coup, en Chine. Vous l'avez accompagnée.
Oui, c'est ça, j'avais raconté ça. Je suis l'auteur de La Bravitude, indirectement, parce qu'elle m'avait demandé. C'est toute une histoire qui est longue à raconter.
Vous l'avez tué en faisant ça. Hein.
Oui, mais j'ai porté cette croix longtemps, hein, d'une certaine façon.
Alors expliquez-nous, vous avez inventé quoi?
Oui, non, mais parce qu'elle avait besoin d'un proverbe à dire sur la Grande Muraille, et donc je lui ai trouvé un truc qui était Putao Changsheng Fei Hao Han. Qui n'est pas allé à la Grande Muraille n'est pas un brave. Elle n'arrivait pas à le dire en mandarin, je l'avais écrit en phonétique.
Qui est un vrai proverbe.
C'est un vrai proverbe, et puis c'est un proverbe bateau, c'est My Tailor is Rich, hein. C'est vraiment le truc que tout le monde apprend en chinois la première année, c'est assez simple. Et puis, et donc elle l'a dit, mais elle s'est sentie tellement truffe en le disant après, je ne sais pas combien d'heures d'avion avec une cohue de journalistes, elle s'est sentie obligée de rajouter. Et j'ai donc conquis la bravitude, ce qui était tout à fait embarrassant pour tout le monde, et qu'elle signait le début de la fin. Mais il y avait plein d'autres histoires, parce qu'ensuite, ça a été une série de gaffes qu'on n'a pas racontées. Mais ce voyage, c'était la calamité absolue. On arrive place Tiananmen dans le bus, avec tous les journalistes, elle dit « Oh, regardez, c'est formidable, ils ont mis le drapeau français à l'honneur de ma visite. » Et puis au fur et à mesure, on voit son visage qui se ferme, au fur et à mesure qu'on s'approche. C'était que des drapeaux israéliens, parce qu'il y avait une visite d'État du président israélien. C'était que ça, les gens l'enfumaient sur les visites de chantier olympique en disant…
Aussi sur les traducteurs. Là,
les traducteurs. Ouais. Ils disaient « Oh oui, il y avait des gens qui venaient lui parler comme ça en chinois, puis la traductrice disait oui, nous sommes très heureux de travailler pour le stade olympique, alors que le mec était en train d'expliquer qu'ils n'avaient pas les chiottes dans leur et qu'ils faisaient moins 15, qu'ils n'avaient pas les chiottes dans leur cabanon, mais ils traduisaient n'importe quoi les gens.
À quand un album sur la politique?
Oui, mais je suis parti de là. Moi,
y en a beaucoup.
Mon début, c'était Il faut tuer José Bové, mon premier album, et c'était vraiment une espèce de plongée sur la terre mondialiste. Il y a eu la croisade Samus, c'était le journal intime de Madame Ben Laden. Puis ensuite, j'ai eu envie de prendre un peu de chant, Silex and the City, puis maintenant la mythologie. Et à vrai dire, cet album 50 nuances de grec, c'est un manuel de survie à une présidence jupitérienne. J'espère que vous avez remarqué ça. Zeus Jupiter, c'est quand même celui qui a tué son père Cronos. Mm-hmm. Donc je pense que Hollande doit se retourner à l'endroit où il est.
Enfin, il a émasculé, quoi.
Hollande lui-même avait émasculé son père. Ouais. Voilà. Et en revanche, oui, il lui a joué d'un sale tour. Il l'a exilé après lui avoir fait vomir tous les enfants qu'il avait ingurgités.
Dans ces années 90,
Mélenchon notamment.
Charles Pépin, vous écoutiez. Comme tous les lycéens, vous écoutiez Nirvana, en fait, au bahut.
Bah ouais, comment ne pas l'écouter, quoi. C'était la révélation, c'était mon ami. C'était tellement beau.
Et
quand j'ai écouté ça la première fois, j'adorais à la fois le côté un peu un peu trash, de l'énergie punk. Grunge, j'adorais le côté love des hippies, quoi. Et là, j'ai vu les deux, j'ai entendu les deux en même temps d'un coup.
Mais vous traduisiez les paroles pour comprendre ce qu'il racontait?
Non, non, j'ai jamais eu l'idée de traduire les paroles.
Excusez-moi, pardon. Je pensais m'adresser à un philosophe, je me suis dit, tiens.
Et bien, pour Jules, justement, pour Jules, c'était la découverte de la Chine. Et pour vous, Charles Pépin, c'était la découverte de la philosophie. Ouais. Comme j'imagine tout bon lycéen en classe de terminale.
Ah ouais, c'était un énorme flash amical avec mon professeur.
Que Bernard
j'ai rencontré, que j'ai rencontré dans la cour du lycée, alors que j'étais en première scientifique, et donc j'allais dans une terminale où il n'était pas. On a parlé deux minutes et il m'a dit, mais viens avec moi. Et je me suis retrouvé dans sa classe l'année prochaine. J'ai changé de section juste parce qu'il m'avait dit ça.
Pour le prof de philo.
Je lui ai fait confiance. Et ouais, c'était une époque sympa. Il fumait des gitanes dans la cour, c'est un autre temps. Et on est devenus très, très vite amis. Et d'ailleurs, c'est.
Mais à quoi vous êtes rendu compte que votre truc, c'était la philo?
Ça m'a permis d'être mieux avec moi-même, au fond, d'accueillir ma complexité, mes doutes de manière heureuse. Avant, j'avais peur de douter, j'avais peur d'être trop compliqué. Et puis, grâce à la philosophie, je me suis mis à accueillir tout ce qui me faisait peur.
Pourtant, la philosophie ne donne pas de réponse. Elle fait naître d'autres doutes.
Alors, c'était quand même un philosophe qui proposait une philosophie en gros hegelienne, c'est-à-dire une philosophie dans laquelle il s'agit de faire des choses, de se réaliser dans le monde et pas rester dans cette espèce de romantisme adolescent. Donc moi, ça m'a parlé et ça m'a fait faire des choses. C'est quand même une philosophie du passage à l'acte aussi.
Une dissertation de 4 heures, c'est du passage à l'acte aussi, et ça, c'était jouissif.
Vous avez j'ai des très bons souvenirs. Je sais pas si, je pense que beaucoup de gens ont vécu ça. Maintenant que j'enseigne, j'ai beaucoup d'élèves qui m'en parlent aussi. Il y a quelque chose comme une incroyable liberté qui est offerte, je trouve, pendant 4 heures. On a 4 heures, on peut y aller, on peut se lâcher, on est seul avec soi-même.
Non, mais il y a que vous qui le viviez comme ça.
Non, c'est pas
vrai.
Mais on a une boule au ventre.
Si vous voyez ses élèves, il enseigne dans un lycée où il y a que des filles. Elles sont toutes amoureuses de lui. Vous voyez Indiana Jones avec ses élèves au début de la recherche.
Sur les yeux, sur les paupières.
Oui. Voilà, il y a marqué love sur les paupières, comme ça. C'est vraiment ça. Hein, ses conférences.
Vous savez qu'il y a une loi quand même.
Non, alors il fait. Alors pour les mamans de ces jeunes filles, il fait aussi des conférences qui sont à peu près dans la même ambiance de dévotion totale.
Je vous précise que les hommes ne sont pas interdits à mes conférences.
Voilà. Okay. Voilà, le message est passé.
Vous n'emmerdez pas à venir non plus.
En 2000, Jules, vous écoutiez J.J. Johnson. Vous écoutez la musique en travaillant?
Oui, en fait, il y a plusieurs phases dans le travail. J'écoute pas du tout de musique quand je dois trouver des gags, quand je dois réfléchir ou lire, parce que ça me parasite. Mais en revanche, au moment du dessin, il y a une espèce de fluidité, de swing, de tempo que peut accompagner la musique. Et donc, le passage au... Il y a d'abord le crayon. Moi, je travaille pas du tout sur l'ordinateur, donc il y a encore la sensualité du papier, de la matière, des différents matériaux que j'utilise. Et donc, il y a le crayon, ensuite la gomme, l'encre, et puis la couleur. J'adore faire la couleur, justement, utiliser un pinceau, utiliser... les écolines.
En fait, à vous-même, parce qu'il y a des dessinateurs qui ont des
coloris. Je le fais moi-même et aussi avec Zahramir Ebrahimi, qui, lui, elle, est coloriste. Elle vient du cinéma. Elle a complètement un univers différent, mais elle amène quelque chose aussi de singulier. Et c'est assez chouette.
Et vous commencez à publier 2000-2001, c'est ça? C'est dans la Nouvelle République des Pyrénées.
Alors oui, c'était même un petit peu avant, parce que mon vrai premier travail rémunérateur, c'était au Nouvel Obs. Et j'ai commencé à la fin des années 90. Mais même, effectivement, la Nouvelle République des Pyrénées, c'était mes premières publications régulières. C'était issu d'une rencontre. C'est le journal qui est publié à Tarbes et à 12 km autour de Tarbes. Et je garde une tendresse pour cette époque parce que j'ai fait mes armes. Et puis, c'était Volinsky qui disait toujours, pour devenir dessinateur, il faut 10 ans. Il faut 10 ans à dessiner sans cesse, comme ça. Il y avait un dessinateur qui s'appelait Charlie Schlingo, à qui il avait donné ce conseil. Et puis lui, qui était un pochetron pas possible, qui était un type tout à fait trash et fou, qui écrivait des livres vraiment fous et drôles. Et puis Volinsky le croisait de temps en temps à 2 ou 3 heures du matin, complètement pochetronné sur les trottoirs. Et il voyait passer Volinsky et lui disait « Hé, Volin, plus que 4 ans !»
Alors, ce qui est incroyable dans votre histoire, et il y a un parallèle avec Charles Pépin aussi, c'est que vous êtes à l'ENS, vous êtes spécialiste d'histoire chinoise. Vous auriez pu faire aussi un choix professionnel plus confortable financièrement, j'imagine.
Connaissez pas les chiffres de vente de la bande dessinée.
Non, mais à l'époque.
C'est sûr.
Quand vous commencez, à mon avis, le cachet à la Nouvelle République des Pyrénées, ça doit pas être baiser. Je me souviens plus,
ça devait être 100 francs.
Ouais, voilà, c'est ça. Et même chose, on y reviendra pour vous, Charles. Mais ça veut dire que vous êtes toujours imaginé dans un rapport au travail qui était la passion et le travail devaient être associés, quoi.
Oui, moi j'ai été un peu élevé comme ça. J'étais dans une école un peu alternative qui nous disait qu'il n'y avait pas de hiérarchie. L'école de Crowley, où il n'y avait pas de hiérarchie entre les matières. Il ne fallait pas se laisser non plus imposer des normes extérieures. Il fallait trouver vraiment ce qu'on aimait soi-même. Et donc, bon, évidemment, il y a la pression des parents. Ma mère, elle était contente que je fasse quand même des études supérieures. Mais j'ai pas eu de problème à sauter de cavale en route et de passer du côté du dessin.
Vous rentrez à Charlie Hebdo dans cette période-là?
J'ai dessiné pendant plusieurs années là-bas. C'était un petit peu après. J'ai commencé à l'Obs, ensuite à Marianne, j'ai bossé à Charlie. Puis j'ai bossé à plein de journaux en même temps. C'est-à-dire que je pouvais publier le même jour des dessins à l'UMA et aux Échos.
Mais pour en venir à l'humour de Charlie et à tout ce qui se passe, malheureusement, j'ai envie de dire, autour de Charlie Hebdo, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, il se passe trop de choses, je trouve, autour de Charlie Hebdo de négatif. Vous avez publié « Il faut tuer José Bové », ce qui ne passerait plus du tout aujourd'hui, ce genre de titre, après tout ce qui a pu se passer.
Pourquoi ?
Parce que c'est un appel au crime, tout simplement.
Peut-être, c'est vrai que j'ai jamais pensé comme ça. C'est, de toute façon, ça change. Je pense que le dessin d'humour et l'humour en général est énormément question de contexte.
Le paradoxe...
Et au fur et à mesure que le contexte change, l'humour est plus le même.
Absolument, mais le paradoxe étant que José Bové l'a lu et a ri.
Lui, il avait ri, bien sûr, mais je pense qu'il rirait encore aujourd'hui, ça serait encore possible. Ça dépend du contexte et de la façon dont les choses sont amenées. Vous savez, il y a notamment quelque chose qu'on dit toujours, c'est le film qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, c'est Rabbi Jacob. Parce que, voilà, c'est plus des thématiques, une façon de voir les choses qui passerait aujourd'hui, ce serait complètement, disons, politiquement incorrect.
C'est Daniel Thompson qui l'a dit à ce micro.
Voilà, et résultat...
Elle a co-signé le scénario.
Et depuis deux ans, on travaille ensemble pour faire Rabbi Jacob 2. Et donc, et on est en train d'écrire la suite de Rabbi Jacob. Alors, elle a beau raconter qu'elle le ferait jamais, mais en fait, elle savait déjà qu'elle était en train de.
Elle attendait la bonne personne.
Quand vous viendrez faire la promo tous les deux de cette sortie-là, on repassera le moment où elle a dit
l'extrait,
on ne peut plus le faire.
Ça va s'appeler Rabbi Jacqueline. mais c'est vrai, c'est pas une vanne.
C'est un scoop. Très bien, merci. Vous écoutiez les Strokes, Charles Pépin. J'adore.
Et vous débarquez à la télé, Charles, de 2001 à 2006. Vous avez une chronique de philosophie dans l'émission Culture et dépendance sur France 3.
Et d'ailleurs, on a chroniqué cet album quand il est sorti. Et c'était marrant parce que cette émission regardée par des gens un petit peu âgés. Enfin, les Strokes, c'est pas trop leur truc. Et personne ne comprenait trop pour que j'ai ce coup de cœur. Et puis finalement, ça a été une énorme révélation, les Strokes.
Et vous avez aussi travaillé sur Canal+. Là, c'était en 2006, ensuite, après France 3, en aparté pour une chronique de philosophie. Le lien avec la télévision, c'est cette envie quoi de vulgariser, d'expliquer au plus grand nombre ou une opportunité qui...
Financière.
Ce qu'on n'a pas dit de vous tout à l'heure, Charles Pépin, c'est que vous avez eu un cursus assez exemplaire. Vous auriez pu choisir un métier.
C'est un peu comme Jules. Enfin, quand je suis sorti de mes études, j'avais fait Sciences Po et HEC et j'étais pris dans une grande banque au service économique. Et donc j'aurais pu gagner beaucoup d'argent très jeune. Et j'ai décidé d'aller enseigner la philosophie à Cambrai et d'écrire des romans. Donc c'était pas la patte du gain qui m'a mû en premier lieu. Donc c'est pas pour ça que je suis allé à la télé, en gros.
J'imagine.
Je suis allé à la télé parce que il y a eu une sorte de casting un peu sauvage. Je défendais mon premier roman et puis m'ont proposé de faire des chroniques. Et ce que j'ai vachement aimé dans la télé, c'est le fait d'essayer de dire des choses compliquées très simplement et très vite. En fait, c'est un peu la culture du raccourci que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux gags, par rapport à l'image, aux images visuelles. J'aime bien quand il y a une sorte de fenêtre qui s'ouvre et qu'on comprend soudain. J'ai essayé de faire ça à la télé. J'avoue que j'ai eu pas mal de désillusions. Sur la télé.
C'était dans la version du midi d'en aparté, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Ouais.
C'est quoi les désillusions ?
Non, c'est que souvent, les gens avec qui on bosse, ils n'ont pas le même souci de dire des choses intelligentes.
Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, prendre le téléspectateur pour quelqu'un d'intelligent.
Non, c'est plus que ça. C'est qu'en fait, les gens de la télé, souvent, ils présupposent que le public est plus con qu'il ne l'est. Donc en fait, on leur propose des trucs intéressants.
Je suis pas d'accord.
Moi, j'ai passé des années à dire, mais bien sûr qu'on peut dire ça, les gens vont comprendre. Et ils me disaient,
il faut leur expliquer.
Non, mais ils me disaient, mais non, ils comprennent pas.
Et
qu'est-ce que je voyais, c'est que quand j'avais dit des trucs compliqués, ils m'avaient dit après le tournage, non, on comprend rien, t'es trop compliqué comme toujours. Après, les gens dans la rue, ils avaient très bien compris et ils me disaient, c'était super. Et je devais me battre. Alors c'est peut-être ce que vous voulez dire. Il faut se battre tout le temps.
C'est ça.
Pour essayer de les convaincre.
Mais quand c'est pas. Il faut pas laisser justement la télé à ces mecs-là. C'est ça, il y a ceux qui croient avoir tout inventé à la télé et qui parlent au nom de la ménagère de moins de 50 et qui disent non, mais c'est ça, les gens veulent ça, c'est pas voilà. pour notre chaîne, ils veulent ça à ce moment-là. C'est bidon.
Si on fait quelque chose
de très sincère, de très direct, de très simple, et on a un tout petit peu bossé avec Jules, je lui ai jamais dit fais ci, fais ça.
Mais c'est parce que vous avez votre métier.
Mais non, mais c'est mon métier, parce que moi je vais donner la liberté de le faire.
Comme moi, mon métier, c'est d'être prof de philo et auteur de livres, j'ai pas le temps de leur expliquer à chaque fois. Et comme ils me faisaient pas confiance, je pouvais pas à chaque fois.
Vous savez quoi, on fera un truc ensemble et je vous ferai changer d'avis sur la télé.
Non, mais tu peux pas dire, mais je te connais, je sais comment tu fonctionnes, mais on peut pas dire que la télé tente de tirer les gens vers le haut, surtout quand on est dans une. Non, parce que quand tu regardes la télévision, mais je parle en général, on est plutôt dans une course à l'audience et on n'est pas forcément.
Il faut être très en forme. C'est-à-dire qu'il y a des espaces de liberté qui s'ouvrent, il faut s'y engouffrer.
Non, mais je vais prendre l'exemple de ce que je connais, pardon, mais le parent pauvre de la télé, ce sont les jeux. C'est d'instant où il y a un jeu de culture générale et où il y a une information, une question, une réponse, on a fait passer un message. Si autour de ça, on peut faire passer des valeurs, on peut faire aussi des vannes qui font passer des valeurs.
Moi, je te parle de certaines émissions où quand tu veux chroniquer un bouquin, on te dit, choisis plutôt un truc un peu moins épais. Enfin, moi, j'y étais confrontée plein de fois. On t'explique que c'est trop compliqué, c'est pas accessible.
Mais ce on, c'est pas la télévision, c'est un mec qui se prend pour
gérer
la production. Cela dit, c'est vrai que pour être honnête, quand même, ce que j'ai beaucoup appris à la télévision.
Pour être honnête, sous-entendu, je ne l'ai pas été avant.
Non, pour être honnête, par rapport à ce débat, c'est vrai que j'ai quand même appris à dire les choses de manière plus rapide et plus simple, sans pour autant perdre du sens. Et ça, j'ai appris à la télévision.
C'est l'école de l'instantané de la rapidité. Oui, absolument. Mais c'est enfin bon.
Là, vous nous l'avez énervé. Là.
Non.
Si, je le connais, il est colère.
Mais tout se prête pas à la simplicité. Pensez qu'on évolue dans un univers où tout est simple et explicable de façon simpliste, c'est assez fatigant.
Je dis simplement que la télévision est un vecteur, c'est un mode de communication et il n'y a pas les gens de télévision comme s'ils se reproduisaient entre eux. Il y a de tout. Il y a des cons partout.
Mais avec Charles, on aime bien ça. Et on a bossé sur plein de chaînes, chacun nos côtés, et en général avec bonheur. La série Silex and the City qui passe sur Arte.
On parle d'Arte.
Alors c'est Arte, mais on arrive à traiter
des
sujets.
Il y a des cons aussi, Arte. Hein.
Mais on arrive à traiter des sujets hyper pointus, hyper complexes, paradoxaux, et avec une liberté folle. Donc
vous regardez beaucoup la télé, vous, Jules ?
Non, deux secondes, parce que je voudrais qu'on ait beaucoup de temps à consacrer le maximum.
Le service public, c'est une honte.
À Muriel. L'Odyssée réalité.
C'est une honte.
À Muriel Zach, qui. Merci Muriel de venir à ce micro. Je ne vais pas perdre de temps.
Désolé pour l'ambiance.
Regardez la télé, Muriel.
Vous êtes auteur donc de cette collection, entre autres, la mythologie grecque en 100 épisodes, le feuilleton d'Hermès, le feuilleton d'Ulysse, le feuilleton de Thésée, et on l'a entendu tout à l'heure, vous avez servi de référence aux 50 nuances de grec pour Jules. D'abord, peut-être pour Jules, avant
Jean. Mais les deux, mais attends, ce qu'il faut quand même dire, c'est intéressant, on a tous les deux pas mal d'enfants, et notamment beaucoup de petites filles. Et toutes nos filles, on les a vues grandir avec vos livres le soir dans leur lit. C'est vraiment mignon. Le feuilleton d'Hermès, moi, ça fait partie de ma vie quotidienne. Quoi.
Alors expliquez-nous la mythologie. Puisque tout à l'heure, des précisions étaient données par Charles Pépin en disant « lui, il a existé, lui, il n'a pas existé ». Qui est l'auteur de la mythologie? Comment sont nés ces personnages? Qui les a inventés? Est-ce que c'est fait pour donner justement faire la morale, apprendre? C'est une sorte de fable de La Fontaine en disant ce qui est bien, ce qui est pas bien. Fable de La Fontaine elle-même empruntée d'ailleurs à Ésope.
Il n'y a pas un auteur. La mythologie, c'est ce que vous en faites vous quand vous l'entendez, quand vous la racontez, quand vous la lisez. Chacun d'entre nous, quand on écrit sur la mythologie...
Le mythe de Sisyphe qu'il a inventé, ce mythe-là.
Les Grecs, c'était une religion pour eux au départ. Mais ils se racontaient les histoires de bouche à oreille. Et donc, en fait, vous n'avez pas une version de chaque histoire. Vous avez plein de versions différentes. C'est d'ailleurs toute la force. Pourquoi est-ce que les mythes existent encore aujourd'hui avec cette force? Pourquoi ils peuvent faire 50 nuances de grec avec cette brûlante actualité? C'est parce qu'en fait, ce sont des espaces de projection, des surfaces de projection pour nous. Donc effectivement, le nom des dieux de l'Olympe, c'était le nom des dieux de l'Olympe à l'époque. Mais après, vous allez trouver, on raconte cette histoire, mais on la raconte comme ça. Et puis, il y a lui qui a dit que c'était...
Il a bouffé ses enfants, mais heureusement, il les a bouffés entiers. Ce qui fait que quand il les a vomis, ils sont revenus. Enfin, bon,
il a une fonction, le mythe aussi.
Et voilà, exactement. Quand je dis ça sert de leçon, vous vous dites de religion, carrément.
Ah non. À l'époque, c'était une religion.
J'entends.
Mais aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une fonction de religion, justement. C'est une liberté. Tout à l'heure, c'est ce que Charles Pépin disait, c'est une vraie liberté pour chacun d'entre nous, et notamment les plus jeunes, eh bien, d'y mettre nos propres préoccupations, nos propres questions existentielles. En fait, les mythes, ça pose les questions existentielles que chacun d'entre nous se pose depuis tout petit. D'où vient la vie, d'où vient la mort, pourquoi la violence, pourquoi la guerre, pourquoi l'amour, toutes ces questions-là. Les Grecs inventaient des histoires pour y répondre, et la force incroyable de ces histoires-là, c'est qu'elles résonnent encore aujourd'hui. Quand par exemple Héra balance son fils Héphaïstos par la fenêtre parce qu'il n'est pas l'enfant désiré, vous n'imaginez pas dans les écoles, depuis la moyenne section jusqu'à très grand, le choc que ça fait. Est-ce qu'on ne s'est pas tous posé la question à un moment donné si on n'était pas l'enfant désiré? Et ensuite Héphaïstos, qu'est-ce qui lui arrive? Il va se faire reconnaître et retourner sur l'Olympe pour ce qu'il est, et non pas pour ce que ses parents, Héra et Zeus en l'occurrence, avaient projeté sur lui.
Donc ce sont les grands sentiments de la nature humaine, l'abandon, la jalousie, la rivalité, la fidélité, la tromperie, qui font partie des fondamentaux de la mythologie. Et que, l'on, retrouve à travers les âges, que l'on soit petit ou grand, mais à travers les siècles aussi.
Exactement, et puis ces questions existentielles, c'est aussi celles qui nous guident. Vous parliez de morale, je ne sais pas du tout le mot, mais par contre... quand vous avez besoin de sortir d'un labyrinthe dans votre vie, si vous n'avez pas compris qu'il faut accepter de vous être trompé de chemin et de revenir sur vos pas, vous n'en sortez jamais du labyrinthe. Eh bien, en fait, les enfants d'aujourd'hui,
si
par exemple...
Si c'est pas moral, c'est quoi? C'est un enseignement? Quel est le mot qui vous conviendrait?
Non, je crois que c'est vraiment une surface de projection pour notre imaginaire. C'est moi, enfant, quand on me dit « fais un brouillon », je comprends pas ce que le prof me dit. Pourquoi il veut que je fasse un brouillon? Ou bien il faut qu'on me pose une question, je suis tétanisée, je sais pas répondre. Parce qu'Audrey, j'ai la réponse tout de suite, la bonne, avant d'avoir essayé de chercher. Eh ben, si Thésée, il avait fait comme ça, si c'était pas fait aider par Ariane, par exemple, parce qu'on s'en sort quand même mieux quand on est plusieurs. Vous voyez, c'est plutôt quelque chose qui vous aide à sentir qu'au fond de vous, les questions que vous vous posez, d'autres avaient des réponses. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est la réponse. Il n'y a pas une réponse.
Non, mais c'est l'imaginaire qui permet aux enfants de grandir.
Mais Nagui voudra des réponses courtes, si vous pouvez, synthétiser. C'est un mec de télé, il faut que ce soit précis. Que,
non, et puis à la radio, il faut...
mais vous savez, ce que vous disiez tout à l'heure pour la télévision, c'est valable pour la mythologie. Parce que le nombre de fois où on m'a dit, c'est mais vrai. Non, ils sont trop petits pour comprendre. Mais non, ils ne peuvent pas entendre. Sauf qu'avec les feuilletons, ça fait des maintenant plus de 10 ans qu'on sait que depuis les plus jeunes, moi je passe mon temps à rencontrer des enfants de 4 ou 5 ans qui viennent me demander, oui, mais pourquoi est-ce que Thésée a cru Ariane quand, ou bien, etc. Donc, vous voyez, ça veut dire la même chose.
C'est comme de la fiction, les enfants le voient comme, comme une histoire. C'est l'imaginaire avec ses monstres, ses démons, parce qu'il y a quand même des horreurs aussi dans la mythologie.
Bien sûr, et puis il ne faut pas l'édulcorer, sinon ça n'a plus aucun intérêt, la mythologie.
La religion, enfin, je veux dire, si je prends une Bible pour enfants, je peux aussi me dire qu'il y a des images qui me sont racontées et qu'on a des événements parfois qui sont aussi surnaturels que Zeus qui se transforme en pluie d'or pour tomber sur
comme
le sein de je sais pas qui, de Danaé.
Tout est vrai dans la Bible, écoute.
Mais c'est aussi une mise en récit. C'est une mise en récit des grands flux d'énergie, d'émotions qui nous parcourent en tant qu'être humain. C'est-à-dire que et comme les grands livres fondateurs, que ce soit les grands textes religieux des monothéismes, mais évidemment la religion ou les textes babyloniens ou de la mythologie précolombienne, c'est d'abord une mise en récit de choses vraiment qui nous viennent de l'intérieur et qui dont on ne se débarrassera jamais.
Et puis ce qui est important aussi, par exemple, c'est de comprendre que quelqu'un comme Héraclès, vous savez, Hercule, il tape, il réfléchit après, il a que des ennuis dans la vie. Vous voyez, des choses comme ça.
Ou bien que, parle,
que Ulysse, par exemple, c'était pas du tout heureux qui, comme Ulysse, voulait partir, il voulait pas aller à la guerre. On l'a obligé à aller à la guerre, Ulysse. Il se dépêche de trouver des solutions, notamment, vous savez, le cheval de Troie, pour que ça se termine. Et ensuite, c'est quand même un réfugié. Tout à l'heure, moi, ça me parle quand on me dit que Caron, etc., ce que je lui racontais tout à l'heure. Mais bien sûr, parce que Ulysse, ça n'est rien d'autre qu'un naufragé sur son bateau qui rêve de rentrer chez lui.
C'est passionnant, c'est chez Bayard Jeunesse, co-signé par Muriel Zaz et Jean-Manuel Duvivier.
C'est l'illustrateur du feuilleton d'Hermès.
Et vous, le texte.
Sébastien Thibault pour Ulysse. Rémi Saillard
pour Thésée. Voilà.
Grands illustrateurs.
Feuilleton d'Hermès, feuilleton d'Ulysse et feuilleton de Thésée. Vous allez continuer en faire d'autres, des feuilletons.
Oui, il y en a un quatrième en route.
Qui s'appelle?
C'est un secret, mais c'est féminin.
C'est le feuilleton de Hello Kitty.
Médée.
Feuilleton d'Athéna.
Héra.
Athéna.
Rendez-vous dans un peu plus d'un an.
Ok, d'accord. Ok, très bien.
Nabila.
Rendez-vous dans 10 minutes avec Tanguy Pastureau. Tanguy, oui. Bonjour. Bonjour. Vladimir Poutine est énervé, ça fait peur.
Oui, il est chafouin, ce qui signifie qu'il a déjà détruit 4 tables à coups de tête et mangé des enfants. Parce qu'il est sanguin. Hein. Les athlètes russes sont privés de JO et ça l'énerve. Et quand il est énervé, Poutine, il se présente à la présidentielle.
Très bien. À tout à l'heure. C'est la bande originale sur France Inter. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Tom Villa.
Bonjour.
Thomas Wiesel.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Leïla nous a quitté, elle fait la télévision. Écoute, elle est obligée de partir et on l'embrasse.
Ouais, j'arrive quand même.
Et voilà, et nos invités sont Jules et Charles Pépin. Jules Echard-Pépin qui signe 50 nuances de grec, l'encyclopédie des mythes et des mythologies. Il y a un petit 1 en dessous, c'est-à-dire que vous prévoyez de faire un tome 2 ou sont mes yeux?
Oui, il y a un tome 2. Il y a un tome 2 qui est en route parce qu'en fait c'est tellement vaste et tellement large.
Il fallait choisir les mythes.
Bah voilà, 50 ça suffit pas, il y en a beaucoup plus. Donc en fin de compte, on va continuer à se promener. Il y a presque rien sur Apollon, il y a presque rien sur Artémis. Tout cela, ils seront au rendez-vous dans le tome suivant.
Est-ce qu'il y a toujours un... un pont, un lien que vous trouvez avec aujourd'hui. On parlait de Narcisse tout à l'heure et la bonne idée sur les selfies et de se dire que c'est tellement le culte de soi, de son image, de ceux qui se forcent. Ça fait toujours rire, moi, quand je vois... Pardon, hein, c'est généralement les filles qui font ça. On profite un peu, Claire n'est pas là pour... c'est faire des bisous comme pour tendre les... je sais pas si c'est pour enlever les rides.
Ouais, c'est ça. Mais il était cool votre selfie pendant le journal Nagui.
Écoutez, j'ai pensé, mais on fait pas le duck face.
Enfin, je crois pas.
La tête de canard. Non, je découpe. Je l'ai sous les yeux, regarde. J'ai eu l'approbation des auteurs.
Oui, parce qu'avec Charles, on a créé, il y a pas si longtemps, notre Twitter et notre Instagram, comme ça, et on a basculé dans ce monde narcissique.
Donc vous êtes tombé dans le culte de vous.
Oui, qui était encore très étranger jusqu'à récemment, et puis voilà, ça y est, la bascule a été faite.
La place de la philosophie, Charles Pépin, aujourd'hui, elle est essentielle, elle est vitale.
Oui, on en a beaucoup, enfin, on a toujours besoin, mais on en a plus besoin aujourd'hui parce que ça s'accélère et la philosophie permet un peu de ralentir, de se poser des questions et même de vivre les questions. Moi, j'aime bien cette idée que la philosophie, c'est pas théorique. Hein. Dans tout ce que je fais, je travaille beaucoup sur des émotions, au fond. Moi, je pense que quand on comprend, en fait, notre cerveau est ému. Hein, il ne faut pas penser que le rationnel est séparé du corps. Et je pense qu'on a besoin aussi aujourd'hui de retrouver comme ça des moments de présence, quoi, de présence à soi.
Mais on ne trouve pas toujours les réponses dans la philosophie. On est pourtant une génération habituée avec les moteurs de recherche à taper n'importe quelle question et à avoir des réponses.
Exactement. Et c'est pour ça que la philosophie fait du bien. C'est qu'elle nous apprend à aimer la question et à pas être obsédé par la réponse. Si par exemple vous vous demandez c'est quoi être libre, et ben être libre, est-ce que c'est faire des choix, est-ce que c'est construire sa vie, est-ce que c'est s'accepter comme on est, et en fait la philosophie elle permet de mieux vivre l'absence de réponse. Or l'absence de réponse c'est la vérité de la condition humaine. Sur les principales questions vous n'aurez pas de réponse. Et donc soit ça vous fait peur.
Ce qui est marrant c'est que même vous ça vous fait sourire de le dire.
Oui parce que c'est
la philosophie c'est l'absence de réponse. Vous ne pouvez pas retenir le petit sourire qui vient avec.
Si jamais tu veux aller à Bastille c'est pratique d'avoir Google quand même.
La philosophie t'aide pas beaucoup pour aller à Bastille. Par contre, pour comprendre pourquoi t'as envie d'y aller, peut-être.
Non, mais c'est ça. Mais est-ce que on vit heureux avec la philosophie, c'est-à-dire de se poser des questions et de pouvoir se les poser sans forcément trouver des réponses. Est-ce que c'est une manière aussi de s'épanouir?
Oui, et vous savez, j'ai créé un cycle de rencontres tous les lundis à Paris au MK2 Odéon qui s'appelle les lundis philo. Et en fait, ce que je vois, c'est marrant. Et ça fait 7 ans que je fais ça, c'est que les gens me disaient, mais alors, c'est la mode de la philo, tout le monde va chercher des réponses, la quête du sens, la réponse à la question du sens de la vie. Moi, ce que je vois chaque lundi, c'est que les gens viennent chercher l'absence de réponse, parce qu'ils vont chercher une communauté de gens qui se posent les mêmes questions existentielles et qui sont liés comme ça, qui sont solidaires dans la beauté du questionnement.
Et alors, comment expliquer que ces questions existentielles, depuis la mythologie jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est le travail que vous faites, sont là, résonnent, soient toujours les mêmes, sans qu'on ait finalement résolu ou répondu à ces questions? Il y a des questions qui resteront éternellement des questions.
Il y a quand même parfois des réponses.
Sur la nature humaine.
Il faut quand même nuancer.
Non, mais sur la nature humaine, sur la jalousie, enfin sur tout ce que l'on a évoqué tout à l'heure.
Je dirais que la philosophie, c'est un double mouvement. Il y a un premier mouvement, il faut savoir s'arrêter sur la question et accepter que la question est dure. Et il y a un deuxième mouvement, savoir aussi s'engager sur un élément de réponse qui est souvent une manière de vivre, une manière de se comporter. Je vous rappelle que si on est stoïcien, on vit comme un stoïcien. Si on est épicurien, on vit comme un épicurien. Moi, j'aime bien Bergson, je vis en bergsonien. Donc il y a quand même ça mène à l'action. Mais ça ne veut pas dire qu'on a la réponse à toutes les questions.
Enfin, vivre comme un épicurien, pour prendre cet exemple-là, être épicurien n'est pas faire forcément ce que Épicure a fait ou a dit. Parce que là, encore une fois, son histoire est plus triste et plus grave que simplement dire « Oh, j'aime bien prendre un petit verre de rouge, j'aime bien le sexe. »
Je vais vous la faire courte. Justement, la philosophie, c'est de changer sa vie à l'aide d'un concept. Le concept d'Épicure, c'est la contingence. Il dit, voilà, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu bois un verre de rouge, en fait, il faut que tu comprennes combien tu aurais pu ne pas rencontrer cette personne. Combien tu aurais pu ne pas rencontrer ce verre de rouge. Combien tu aurais pu ne jamais naître. Tes parents auraient pu ne jamais se rencontrer. Ta mère aurait pu avorter avec l'accord de ton père, éventuellement. Et ben, du coup, le miracle, c'est d'exister. Ça n'est qu'un concept. Mais quand on comprend ce concept, on vit les choses différemment. Et ben, c'est ça, la philosophie. C'est de vivre autrement, en étant passé par la case concept, par la case analyse conceptuelle. C'est-à-dire, en gros, changer sa pensée pour changer ses affects. Et c'est là qu'on se retrouve bien avec Jules, parce que lui, il m'a raconté, j'étais surpris d'ailleurs, que pour lui, souvent, il a des émotions, et ces émotions produisent au fond des dessins. Et moi, j'ai une conception de la philosophie qui passe par le corps et par l'émotion, qui n'est pas une spéculation théorique.
Jules ? Et pour revenir à la mythologie, ce en quoi justement ça illustre complètement ce que raconte Charles Pépin, c'est que ces émotions, ces grands flux de inchangés de la nature humaine sont mis en récit par la mythologie. Nous, quand on le met en scène, ce n'est qu'une variation sur ces grandes mises en récit, c'est mettre des mots et mettre du sens sur des choses qui nous traversent et qui sont là de toute façon. Et donc, si en plus on peut aller du côté de l'humour et si en plus ça peut faire résonner les choses entre elles comme une espèce de galaxie de concepts, de galaxie de situation, ça nous rend plus libres, ça apporte pas des réponses, ça apporte des mots et ça apporte des images sur quelque chose qui serait comme cette espèce de chaos
et avec
originel.
Vous, ça apporte des vannes aussi, parce que je pense que par l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages d'enseignement, de réflexion ou de questionnement en tout cas.
Il y a une forme de fraternité pour le lecteur. Hein. C'est à travers les générations, qu'on soit un gamin ou qu'on soit un adulte très intello, je pense que notre travail a quelque chose à raconter.
Absolument. 50 nuances de grec, Jules et Charles Pépin, c'est publié chez Dargo. On va philosopher maintenant avec Tanguy Pastureau qui maltraite l'info. Vladimir Poutine est énervé.
Oui, il est furieux, ce qui fait qu'il a exactement la même tête que quand il est content, parce qu'il a une expression en tout sur la face. Or, Poutine, c'est Attila avec le physique de Michel Blanc. Vous pensez qu'il roupille, vous vous approchez et hop, il vous saute dessus et commence à vous bouffer. Comme les rats à Paris quand vous êtes dans un jardin public et que vous avez dans la main une gaufre. Hannibal le cannibale à côté, c'est Joséphine Ange-Gardien. Et si Poutine est chafouin, c'est parce que le Comité international olympique a décidé d'exclure la Russie des prochains JO d'hiver en février. C'est-à-dire que les sportifs s'entraînent depuis des mois pour rien. Au mieux, ils auront juste un super corps avec des biceps sans fonte et des petits culs galbés. Ce qui est inutile puisque le temps qu'on arrive à l'été pour exhiber le matos sur la plage, tout aura fondu. Un corps, c'est comme un micojet. Seul le goût diffère. Les athlètes russes peuvent participer mais pas sous leur couleur. Ils ne seront rattachés à aucun pays. Hein, on dira « Ah, voilà, belle victoire de Michael Stevens pour les États-Unis derrière Igor Grudchenko pour Igor Grudchenko. » Et en cas de victoire, il n'y aura même pas d'hymne national. Le russe gagnant pourra chanter ce qu'il veut. Kalinka, Nathalie Gilbert-Beko, vient boire un petit coup à la datcha.
Ce qui est déjà arrivé au dernier JO. Ouais.
Alors c'est le président du CIO, Thomas Bach, qui fait le malin parce qu'il porte le nom d'un grand compositeur. Mais si c'était appelé Thomas Pokora, il l'aurait moins ramené. Qui a annoncé mardi la sanction contre la Russie. Sanction motivée par le fait qu'en 2012 à Sochi, la Russie a triché, comme Ariel Dombal sur son âge, mais en moins gros. Au moment des contrôles antidopage, ils ont intercepté des flacons d'urine de Russes dopés. L'urine était tellement chargée qu'elle faisait des bulles, à un moment des vagues se sont formées dans la fiole, pour les remplacer par des pipis normaux de gens n'ayant jamais pris la moindre substance de leur vie, donc juste Mireille Mathieu. Les athlètes russes, blindés de stéroïdes, gagnaient tout. Hein, en patinage, ils arrivaient à faire un sextuple Axel, et au curling, passaient le balai sur la glace, et après dans l'ensemble des gradins du stade, en 28 secondes et 4 dixièmes. Nelson Monfort a essayé de suivre le rythme, il a convulsé. En deux semaines, la végétation avait prospéré, puisque dès qu'un sportif pissait sur un gland, il poussait un chêne. Bref, c'était le mondial de la pharmacie. Et les Russes ont eu des médailles, mais en trichant, ce qui est mal, Nagui.
Et donc Vladimir Poutine conteste évidemment la sanction du CIO.
Oui, il parle d'humiliation et de complot. Il est dans le même état de fureur que Jack Lang s'il avait une équipe de télé dans une pièce et qui filmait un autre que lui. Et c'est vrai qu'il n'y a que la Russie qui a été punie, alors que tous les pays shootent leurs équipes. Le rapport de Kurt Cobain aux drogues a été pondéré à côté de celui des sportifs. Et c'est normal. Si c'est pour voir deux, trois pleupleux traînasser en raquette dans la neige, je suis désolé, mais moi, je babonne pas Eurosport. Je pars au Puy de Sancy avec mon beau-frère. Faut qu'il y ait du spectacle. C'est le maître mot du divertissement. Quand Johnny décède, on parle de la bête de scène qu'il était. De Carla Bruni, au moment de sa mort, on dira elle était discrète. Un sous-entendu, on s'est bien fait yèche. Le moment le plus débridé de sa vie d'artiste, c'est quand un mec est venu jouer du triangle sur sa reprise de Dépêche Mode à la gratte sèche, sans micro. Poutine Furax a donc annoncé qu'il se présentait à la présidence de la Russie dans un processus démocratique très efficace, puisqu'il sera opposé au premier tour à personne et au second non plus. Hein, ensuite, c'est reparti pour 6 ans, alors qu'il est déjà au Kremlin depuis 17 ans. Il doit avoir la flemme de bouger, faire des cartons, c'est pas son truc. Et si ça se trouve, ils ont pas des mécos. Enfin, là-bas, ça se passe comme dans Question pour un champion chez nous. Hein. Vladimir, vous partez ou vous restez? Écoutez, je reste. Seul souci, il avait tout misé sur le sport. Il y a le mondial de foot cet été. Ouais. Lui-même se met en scène torse-poil avec les tétons durs en train de pêcher des poissons qui font la taille de buffles dans lesquels aurait soufflé David Douillet. Il tient à l'idée de l'accomplissement par le sport. Alors que Gérard Larcher ou Laurent Voulzy, par exemple, pas du tout. Or, son ex-ministre des sports est banni à vie des JO, les athlètes russes sont grillés, le stock de PO sert plus à rien, c'est Poutine qui ingère les restes, il est à fond, il pêche des baleines et il les mange vivantes en hurlant. Mais, avantage pour lui, il a maintenant plein d'ennemis, l'Europe, les États-Unis, le CIO et tout ce qui représente le sport. Il a déjà préparé des banderoles anti-Lionel Chamoulot, hein, et ça, généralement, ça porte, donc il risque de passer en mars, sauf bien sûr si c'est son principal adversaire, Vladimir Poutine, qui est élu.
Bien sûr. Merci Tanguy Passion. La bande originale, Nagui, sur France Inter. La bande originale de votre matinée, c'est aussi les Kingsmen avec Louis Louis. Jules et Charles Pépin sont nos invités pour 50 nuances de grec sur France Inter. Louis, les Kingsmen, la bande originale sur Inter, c'est aussi le rêve de Daniel Morin.
Ah, nom de Dieu, ça fait du bien. Non, parce que j'en ai ras-le-bol des invités cultureux qui se la racontent avec leurs livres sans images. Ras-le-bol des crétins aussi qui viennent avec des actus rigolotes mais sans intérêt. Aujourd'hui, on a un mix
tu
des
parles
deux.
De qui
Attendez, vous voulez vraiment des exemples, Nagui? Non pas des invités chiants et sans intérêt, non des invités passionnants et qui nous distraient en même temps. Bienvenue à vous, Jules et Charles Pépin. 50 nuances de grec. Ça, c'est de la culture. Ça, c'est du divertissement. Pégase, Hadès, Héros, Atlas, Athéna. Génial. Du coup, quand je me suis couché, j'étais en joie. Et moi, quand je me couche en joie, je souris. Et quand je souris, je m'endors hyper vite. Et quand je m'endors hyper vite, je rêve. Encore tout imprégné de l'œuvre de nos invités, dans mon rêve, je suis dans un club appelé Mont Olympe. Truc assez chic. Je suis en toge et je me balade. Oui, d'un bien. Seul coup, un grand gars s'approche de moi. Salut, je m'appelle Zeus, je suis le patron du club. Chef de village, si tu préfères. On t'attendait, bienvenue à toi, Morinos, dieu des chroniques. Oh merde, la vache, je suis un dieu, c'est plutôt cool. Merci chef, et c'est quoi le programme ici? On est là pour kiffer, on est des dieux, hein. La notion de contrariété, on oublie. Je te laisse, j'ai rendez-vous pour faire l'amour avec Apollon et Artémis. Oh, trop cool, c'est qui? Mon fils et ma fille. C'est dégueulasse. Non, c'est la magie de la mythologie. Allez, viens, il y aura aussi Oedipe et sa maman. Une fois l'autre pervers parti, je poursuis ma balade. Je fais pas 100 mètres que je croise un autre gars. Le mec a l'air très bizarre, très chelou, vous voyez? Genre Augustin Trapenard. Oh enfin, quand même, en moins flippant, hein.
Ah bon.
Poli, j'engage la conversation. Salut, je suis Morinos, le dieu des chroniques.
Salut, je suis Dionysos, dieu du vin et des orgies.
Ah, je me disais bien qu'il y avait du trapenard dans le regard.
Ça te dit une petite partouze?
Attends, il y aura qui à ta petite sauterie? Non, parce que je viens de croiser le chef de village, là, monsieur Zeus. C'est pas joli joli, hein, il allait se taper ses enfants, le vieux cochon. Hashtag vive la Picardie.
Oh, non. C'est cool, il y aura des hommes, des femmes, des plantes, des animaux. Ce sera hyper festif.
Pas le temps de dire ouf qu'on me tape sur l'épaule. Salut, moi c'est Hallydès, Johnny Hallydès, dieu des idoles. Putain, Johnny Hallydès, waouh, c'est pas un club de merde, hein. Alors je poursuis ma balade, j'arrive dans un bâtiment avec l'inscription suivante, Héraclès, travaux en tout genre. Je rentre et là derrière le comptoir, un gars hyper balèze. Bonjour, je peux vous renseigner? Ah, je sais pas, je suis nouveau, je suis Morinos, dieu des chroniques. Je me demandais, on fait quoi là, ici dans ce bâtiment? Si c'est mon bureau, je propose des services, des travaux divers. En ce moment, il y a une super promo. Quel genre? Un, pour le prix d'un travail, je vous en fais 12. Oh, trop cool le plan, c'est vraiment bien, hein, le bon Olympe. Et là, je me retourne.
Bonjour.
Bonjour.
C'est la première fois que je vous vois, je m'appelle Aphrodite, déesse de l'amour.
Moi, c'est Morinos. Je peux vous offrir un verre?
Je suis assez pressé, je vais à une orgie organisée par Dionysos. Vous voulez venir?
Ah mais bien sûr que oui, alors là, oui, 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 oui.
J'espère que vous êtes partageur, je suis attendu pour un plan à quatre, mais il y a un désistement. Vous voulez bien faire le quatrième?
Ça dépend. Qui sont les trois autres?
Bon, ben, il y a moi, je valide. Et puis, il y a Macaria et Agrios.
C'est qui, ces petits coquins?
Macaria, c'est une déesse de la mort, et Agrios, c'est un géant mi-homme, mi-ours.
Alors, non. Ah, ben, non, 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 non. En fait, je peux pas.
J'ai piscine, avec Poséidon.
Oui, c'est ça. Poséidon et Flipper, le dieu de dauphins.
Non, je suis pas prêt. Non, non. Je suis prêt à beaucoup de sacrifices. Hein. Là, il faut pas pousser. Hein. Même les soirées SM de Nagui, c'est pas aussi trash.
Ben, si, c'est aussi trash. Mais il n'y a pas de mi-homme, mi-ours. Enfin, si, des fois, il y a Manoukian, mais c'est pas pareil, je le connais, Dédé, il est plutôt courtois dans le rut, hein, ouais. Et apparemment, mon attitude n'a pas plu aux dieux. J'étais en train de manger une petite compote Andros quand deux gars sont arrivés vers moi. Bonjour les gars, c'est pourquoi? Je m'appelle Hypnos, le dieu du sommeil, et ça c'est mon fils, Morphée, le dieu des rêves. T'es viré! Bon, c'était cool de croiser Johnny Hallydès, mais j'étais pas mécontent de me réveiller. C'est quand même hyper, hyper chelou, la mythologie grecque. À demain.
Merci, d'ailleurs, moi. C'est vrai que c'est chelou, avec un peu de recul, vous dites nos enfants n'arrêtent pas de lire, et puis c'est vrai que nos enfants lisent la mythologie, mais avec du recul, se dire que tel dieu fait l'amour avec un animal, ou que tel fils fait l'amour avec sa mère, ou que tel autre avec sa fille, c'est...
Mais d'ailleurs c'est fascinant le regard des enfants là-dessus, parce que ça les surprend moins que nous. En fait ils ont une sorte de...
Ils ont peut-être pas la même image sur le mot faire l'amour avec, non?
Non, mais après, ça dépend à quel âge aussi. Et je pense que pour, ils comprennent que la séparation entre l'imaginaire et le réel est pas si importante que ça, et on devrait s'en souvenir, nous, les adultes.
Est-ce que les enfants, quand ils lisent ça, certains n'ont pas l'impression que les parents, leurs parents, les aiment moins?
Pourquoi?
Parce qu'ils leur font pas l'amour.
Quelle horreur!
Non, non, c'est sérieux.
Tu le mettras dans tes excuses.
Hein. Non, non. Mais sérieusement, il n'y en a pas qui se posent la question.
Je pense qu'il est bon d'avoir des discussions, effectivement, avec ses enfants après qu'ils aient lu la mythologie grecque.
Et que lui doit avoir un docteur, on est d'accord.
J'embrasse ma mère.
Parlons des projets. Revenons à Silex and the City. Ça va arriver quand? On pourra le voir quand et où et
Alors, Silex and the City, donc la série du dessin animé sur Arte, ouais. et
pour l'instant est en pause et va être remplacé par 50 nuances de grec à partir de septembre. Et donc là, il y a tous les personnages qui vont incarner tous ces dieux et ces déesses. C'est un casting de fou parce que justement, on parlait annoncé pour demain, je crois, chez à l'instant M, Valérie Le Mercier qui elle va jouer Pénélope. Il y a Artémis et Cécile de France. Le dieu Pan, c'est Bruno Solo. Toréton joue Zeus. C'est assez composite. Il y a Stéphane Bern qui joue Orphée. Bref, c'est une affiche complètement extravagante et assez rigolote. Donc, on travaille là-dessus. Silex and the City, on va faire un long métrage animé. Donc, ça, c'est encore génial. Une autre histoire et c'est une autre temporalité. Je vous parlais de Rabbi Jacob. Donc, il y a pas mal de choses.
Rabbi Jacqueline.
Et oui, c'est ça, Rabbi Jacob 2, donc Rabbi Jacqueline. Et puis, j'étais venu, je crois, vous parler il y a quelque temps de Lucky Luke, parce que maintenant, je suis un peu le scénariste officiel de Lucky Luke. Et ça, l'année prochaine, ça y est, j'ai rendu, moi, mon scénario. Le dessinateur HD commence à travailler dessus. Donc, on aura un Lucky Luke. Ça fait pas mal de trucs.
Mais ouais, c'est ce que j'allais dire.
Il y a les douze travaux de Jules.
Il y a un moment où vous respirez ou pas, Jules?
Ouais, voilà. Bah non, mais c'est...
Vous aimez ça?
C'est plutôt excitant.
Faut demander aux philosophes, d'ailleurs, si de travailler autant ne veut pas dire quelque
chose. Il travaille beaucoup.
Je pense qu'il a de la joie comme ça dans cette suractivité.
Ça veut dire quoi de trop travailler?
Je pense qu'il cherche quelque chose. Voilà.
Oui, l'immortalité.
Il est aussi l'argent peut-être. Non, il est aussi capable de.
Non, j'allais dire l'immortalité, d'en faire autant, vivre pleinement.
Je pense que c'est plutôt l'intensité. Plutôt l'éternité d'un instant intense plutôt que l'immortalité réelle, quoi.
Je rappelle, Charles Pépin, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous participez régulièrement à Philosophie Magazine, mais vous avez parlé des conférences de philo le lundi à 18h30, c'est voilà, ça ouais. Au MK2 Odéon à Paris, et les prochaines conférences auront pour thème le 11 décembre, et si nous prenions vraiment soin des autres, et le 18 décembre, que reste-t-il de l'esprit français?
Voilà.
C'est ça?
Oui.
Très bien. Merci mille fois d'être venu. Des excuses à présenter, j'imagine, Daniel.
Évidemment.
Vous avez dit les horreurs.
Désolé pour nos auditeurs normaux qui ne sont pas humides en lisant un livre et qui ne rêvent pas de se faire attacher à un mât. Je sais, ça pue à la déviance ce matin. Moi-même, je ne me sens pas très à l'aise. Désolé pour nos fidèles auditeurs qui ont été légitimement choqués par l'intelligence de l'émission de ce matin. Franchement, si on avait su, heureusement, attendez les gars, on revient à notre vrai niveau. Demain, on va parler gonzesses et fringues avec Zabou Bretman. Désolé pour nos auditeurs fans de Johnny qui ont été quelque peu, dépassés par l'hommage que lui a rendu notre philosophe Charles Pépin. Alors les gars, je vais vous expliquer ça, mais... Ah bah non, merde, désolé, on n'a pas le temps. Pas de bol.
Merci beaucoup, bonne journée. Merci Jules, merci Charles Pépin, portez-vous bien. Merci Thomas, Daniel et Tom. On se retrouve demain avec Zabou Breitman. Tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Oui. Bonjour Philippe.
Bonjour Nagui, bonjour la bande.
Salut.
C'était encore vachement bien aujourd'hui.
C'est trop gentil.
Et si, si.
T'as pas écouté alors.
Et comme on dit en Grèce, et demain ça va empirer.
Ça va empirer. Bien. Attention, batterie.
Salut les amis.
Bonne émission.
Ciao.